Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et ça y est, on va pouvoir commencer la série de conférences de l'après-midi. Dominique, Gérard, je vous donne le micro.
Oui, donc je vais commencer. Naturellement, pour les gens qui ont vu le programme du Salon du Livre, petit choc, c'est un changement. C'est-à-dire que nous, on est capable de s'adapter. Il manque quelqu'un qui n'est pas là. Donc les médias contre la gauche avec Lucille Gérard du collectif Acrimed. Nous avons eu des petits problèmes pour qu'elle soit là. Du coup, eh bien, au pied levé, Gérard Mordilla a accepté de faire le taf. Et ça tombe bien parce que dans les librairies, ça ne vous a pas échappé, mais il y a un excellent livre, une BD qui s'appelle « La guerre des paysans » par Gérard Mordilla et dessiné par Éric Liberge. Alors Gérard, merci d'abord au pied levé comme ça d'accepter qu'il n'y ait pas de blanc sur Radio Libertaire. On n'a jamais été habitué à ça dans une radio fédérale. Donc de toute façon, voilà, on a un petit peu de temps maintenant pour parler de cette BD. Alors, tu vas peut-être nous présenter le sujet parce qu'il y a peut-être pas mal de gens qui ne connaissent pas du tout.
Ah, c'est pour moi une très longue histoire parce que j'ai lu il y a très longtemps le livre de Engels sur les guerres paysannes en Allemagne au XVIe siècle, qui m'avait beaucoup intéressé. Et mon amie Geneviève Serrault, qui était celle qui était l'éditrice des Lettres Nouvelles, la revue de Maurice Nadeau, m'a fait lire un essai de Ernst Bloch, qui est un philosophe et un historien allemand, et qui est le grand livre sur cette histoire. Parce que ça raconte très précisément l'opposition qu'il va y avoir entre deux prêtres à ce moment-là. D'un côté, Martin Luther, qui va soutenir le Parti des Princes, et Thomas Munzer, qui va soutenir le Parti des Paysans. Mais pour prendre les choses par le début, tout se passe parce que le pape Léon X, à Rome, au Vatican, n'a pas assez d'argent pour construire Saint-Pierre de Rome. Donc il va vendre, comme toujours, la charge de cardinal à un prince allemand très cher. Ce prince n'a pas d'argent non plus. Il va se faire financer par Jacob Fugger, pardon, qui est l'homme le plus riche du monde à ce moment-là. Il est le banquier de Charles Quint, celui qui a fait l'élection de Charles Quint. Et pour rembourser le banquier, Léon X va autoriser ce prince allemand à faire lever des indulgences sur son territoire. Qu'est-ce que sont les indulgences ? Ce sont des brevets qui vous enlèvent plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années de purgatoire avant de rejoindre le paradis. Et c'est extrêmement cru. C'est-à-dire que vous lisez le texte des indulgences, c'est comme lire les 120 journées de Sodome de Sade. Tout est détaillé. C'est pas le même prix si vous faites l'amour avec un curé que si c'est avec un cochon ou avec votre mère. Il y a des tarifs différents. Et selon la manière de faire l'amour aussi, c'est pas le même prix. Bref, il va lancer ça. Et c'est un moine dominicain qui s'appelait Tetzel qui va prêcher l'indulgence, comme on dit. Et il a une phrase qui sera pour lui la phrase qui le poursuivra pour l'éternité. « Dès que l'argent teinte dans la sébille, l'âme monte au paradis ». Donc c'est un homme qui avait un sens du commerce. Et il fait cette annonce à Wittenberg. Et à Wittenberg, il y a une université dans laquelle enseigne Martin Luther, qui est prêtre, qui entend Tetzel prêcher l'indulgence et qui est absolument indigné par ça. Il trouve, mais absolument insupportable, terrible, que l'on puisse vendre des tranches de paradis pour construire Saint-Pierre de Rome. Et quelle est l'autorité qui peut vendre des tranches de paradis? Ce n'est pas le pape qui a cette autorité-là. Donc il va publier, il va écrire 95 thèses contre les indulgences qu'il va publier sur la porte de son église. Il écrit en latin. Mais ses étudiants vont le traduire. Et à ce moment-là, l'imprimerie est en plein essor et ils vont le faire imprimer. Et d'un seul coup, les 95 thèses de Martin Luther contre les indulgences vont devenir une sorte de best-seller en Allemagne. Ça va se vendre, je ne sais pas, ou distribuer 2000, 3000 exemplaires peut-être. Mais le message qui va être adressé à travers ces thèses, c'est qu'on peut se libérer de l'autorité papale. Le pape n'a pas autorité pour garantir aux croyants une place au paradis, ni même en enfer, bien entendu. Et comme les paysans, les journaliers les plus pauvres sont rançonnés par l'Église, parce que l'Église, là aussi, faisait tout payer, c'est extraordinaire quand on lit les textes. Une chose amusante qu'on peut citer, lorsqu'on se mariait, si, bien entendu c'était payant, mais si on voulait consommer le soir même, c'était plus cher. Sans ça, il fallait attendre 3 ou 4 jours, je ne sais plus exactement. Bref, ils vivaient dans une sorte, sinon d'opulence, en tout cas ils vivaient bien alors que le peuple vivait très mal. Donc tout de suite, les paysans vont comprendre la leçon et vont s'en prendre au couvent et au monastère. Ils vont se mettre à piller les couvents et les monastères, à d'ailleurs, là aussi, liquider les moines, les prêtres, etc., contre l'Église, poursuivre cette idée de Luther qui, finalement, les affranchissait de toute autorité papale. C'est là que les choses vont se compliquer, parce que Martin Luther n'avait pas du tout envisagé cela et était d'ailleurs mort de peur de ce qui se passait. De l'autre côté, un autre prêtre, qui s'appelait Thomas Münzer, lui, au contraire, a entendu aussi la leçon de Luther et est absolument d'accord avec lui. Mais lui, il soutient les paysans, il pense qu'ils ont raison. Il pense d'ailleurs que c'est un signe absolument certain que le ciel souhaite ça, qu'on rétablisse finalement une sorte de morale évangélique, de partage entre tous, etc. Donc, il va y avoir deux camps qui, petit à petit, vont se former. Luther, qui était un génie, était aussi une ordure finie. Les textes qu'il écrit contre les paysans et qu'il écrira contre les juifs sont terribles. Ernst Jünger, le philosophe allemand, disait que de lire ces textes-là, c'est lire tout le programme d'Hitler. Et je pense que ce n'est pas exagéré de dire ça. En même temps, Luther était un génie parce que il a entrepris, mais d'autres aussi, mais c'est la sienne qui a compté, de traduire la Bible hébraïque en allemand et aussi le Nouveau Testament. Et surtout, à partir de ce moment-là, des prêtres comme Karl Stadt, qui lui aussi avait fait une traduction, comme Thomas Münzer, qui traduira les psaumes, se mettent à prêcher en allemand. Et Luther y viendra ensuite. Et ça va tout changer. Ça va tout changer parce que soudain, les auditoires comprennent ce qu'ils disent. Avant, on prêchait en latin, ils n'en comprenaient pas un mot, évidemment. Mais là, on prêche en allemand. Et donc, d'un côté, Luther monte en chaire et fait l'exégèse de tel ou tel passage de la Bible hébraïque ou du Nouveau Testament, et tout le monde comprend que c'est une position politique par rapport à la situation qu'ils vivent en ce moment. Münzer, dans son église, monte en chaire et prêche sur toute autre chose, mais je ne sais pas, sur Daniel ou sur les psaumes. Et là aussi, l'auditoire comprend absolument que c'est une position antagoniste à celle de Luther. Et moi, c'est ce qui m'avait intéressé dès la lecture de Engel et surtout à la lecture de Ernst Bloch, c'était comment, à ce moment-là, le discours religieux devient le véhicule du discours politique. Apparemment, ce sont deux théologiens qui s'affrontent sur une interprétation de tel ou tel passage, mais en réalité, ce sont deux adversaires et même deux ennemis qui s'opposent extrêmement violemment en se servant de ce langage que tout le monde comprend. C'est essentiel. Et je pense que c'est d'ailleurs une des dernières conversations, sinon la dernière conversation que j'avais eue avec Michel Foucault, quand je trouvais que Michel Foucault s'était avancé, à mon avis, un peu hâtivement à soutenir, comme il l'a soutenu, la révolution iranienne. Bien entendu, c'était tout à fait légitime de soutenir cette révolution contre le Shah, etc. Simplement, ce qui venait derrière, c'était quand même Khomeini et un discours religieux. Et justement, un discours... Le Shah avait tenté d'occidentaliser l'Iran. Le peuple ne voulait pas être occidentalisé. Soudain, Khomeini arrive et parle le discours religieux du commentaire du Coran ou des hadiths, et tout le monde reconnaît sa culture. Donc on voit que cet enjeu-là, l'enjeu de la langue, est un enjeu fondamental. Alors, ce qui est important aussi, parce que je ne veux pas être trop long, c'est que Munzer est considéré comme une sorte de figure tutélaire du communisme, parce que en mourant, il aurait, sous la torture, avant d'être décapité, il aurait dit à ses bourreaux « Omnia sunt communia ». Toutes choses sont communes. Et Engel lisait dans cette phrase-là, au fond, ce qui est la première pierre de ce que sera la théorie communiste. Et tous ces éléments-là, c'est-à-dire la naissance du communisme, la révolte paysanne, la révolte contre l'autorité de l'Église et derrière l'autorité de l'Église, l'autorité papale, le langage partagé, eh bien, c'est tout ça. Et je crois que c'est d'ailleurs, pour moi, une des choses formidables du développement de la bande dessinée actuelle, c'est qu'à travers celle que j'ai fait avec Éric Liberge, eh bien, on peut lire tout ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des petits Mickey qui s'agitent dans des bulles. C'est un travail historique extrêmement sérieux, avec ce qu'il faut d'ailleurs de romans pour que l'histoire se lise, mais les fondations sont extrêmement solides et ça nous concerne très directement. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans les manifestations, pas la toute dernière, mais récemment, j'ai vu des gens manifester, je pense que c'était des anarchistes d'ailleurs, sous la banderole « Omnia sunt communia ». Donc... le temps était traversé et Thomas Munzer réapparaît comme une figure à laquelle on peut en tout cas réfléchir, sinon s'y référer.
On a le temps.
Ben, non, mais à toi.
Ben moi, j'ai rien de particulier à dire sur le fond de cette histoire, sauf que moi aussi, j'avais lu notamment le bouquin de Maurice Pianzola.
Oui, Pianzola, hein, oui.
Voilà, qui vient d'être réédité d'ailleurs dans une petite maison d'édition qui fait du bon boulot, édition Héros Limite. Donc ce livre-là, il est ici sur le stand, ça s'appelle Thomas Munzer ou La guerre des paysans. Et alors, effectivement, pour moi, c'était quand même un des actes de révolte, en plus qui mêlait politique et cléricalisme. Et bon, mais tu l'as expliqué. Et pour nous, quand même, qui prêchons la révolution et qui n'avons, faut le dire, connu que des échecs, parce que même celles qui ont réussi à prendre le pouvoir et à se développer, ont débouché quand même sur des dictatures. Alors, une dictature de gauche, une dictature de droite, je ne vois pas, moi, en tant que militant anarchiste, la différence. Mais il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas ignorer le passé, et toutes ces luttes-là nous éclairent. Et je pense que c'est une bonne idée d'aider à ce que ces phénomènes historiques réapparaissent aujourd'hui, où on a quand même, je pense, des capacités de réflexion plus développées qu'à cette époque-là, puisque il y a beaucoup plus de gens qui ont accès aux informations et donc beaucoup plus de gens qui peuvent réfléchir, alors qu'à cette époque-là, quand même, il faut reconnaître que dans les masses populaires ou paysannes, il y avait très peu de gens qui ont réussi à se cultiver quand même, hein, malgré l'oppression.
Tout simplement qui savaient lire. Il y avait très peu
de
gens qui savaient lire.
Oui, déjà. Et bon, d'autant plus que, effectivement, si on commence aussi à... Enfin, on continue à parler dans une langue étrangère, le latin, pour la cité, eh bien, c'est se couper des trois quarts de la population. Donc ça ne concernait qu'une élite. Une élite, évidemment, qui avait accès au savoir. Aujourd'hui, revisiter ces moments historiques, ça nous permet de relativiser et puis de ne pas faire les mêmes erreurs que celles qui ont été faites. Parce que, bon, Gérard n'a pas raconté la fin. Alors, il y a deux fins qu'on peut lire. Hein. À la fin, quand même, ils prennent quasiment l'anarchie. Hein,
oui,
mais c'est quand même un massacre. Munzer, il a été écartelé, on a baladé sa tête au bout d'une pique. On lui a fait payer cher l'audace qu'il avait eue de prendre fait et cause pour les paysans. Voilà. Et puis, bon, aujourd'hui, on parle de réactualiser ce moment historique. Bon, ça se fait avec les armes d'aujourd'hui. Hein. J'espère que tu vas pouvoir nous expliquer un peu comment c'était venu l'idée de faire cette BD avec Guy Berge.
Bah, l'idée, elle vient de très loin, parce que lorsque j'avais lu et que je voulais écrire justement sur comment le discours religieux devient le véhicule du discours politique, j'ai eu l'occasion de rencontrer Roberto Rossellini, le cinéaste italien à la Cinémathèque. Et donc je lui ai raconté tout ça, et j'ai commencé à travailler pour lui. Et dans une lettre, Truffaut expliquait qu'il avait été 3 ans l'assistant de Rossellini sans jamais faire un film avec lui. Moi, j'ai été pendant 3 ans le scénariste de Roberto Rossellini sans jamais faire un film avec lui. Pourquoi ? Ben parce que moi, j'ignorais tout du cinéma à ce moment-là. J'étais ouvrier imprimeur et il me semblait que si Roberto Rossellini voulait faire un film, il faisait un film. Il avait une très grande réputation artistique et intellectuelle. En même temps, Rossellini était extraordinaire puisqu'il n'a jamais fait un succès commercial. Jamais, jamais, jamais. Il y a eu un entretien très drôle entre Renoir et lui où ils se disputaient pour savoir celui qui avait fait le plus grand nombre d'échecs, et Renoir était quand même obligé de reconnaître que oui, Rossellini en avait fait plus que lui. Et Renoir avait cette formule rigolote où il disait « Oui, c'est vrai, moi, il y a un temps où j'ai payé pour faire des films et il y a eu un temps où on m'a payé pour en faire », ce qui était la vérité. Donc, le film avec Rossellini ne s'est jamais fait, et j'ai toujours gardé ça en mémoire. Et au fond, ce travail a inauguré tous les travaux que je ferai ensuite, parce que c'est à l'occasion de ces lectures et de Engel et de Ernst Bloch que je me suis mis à lire aussi ces choses que je n'avais jamais lues, qui étaient la Bible hébraïque et le Nouveau Testament, et qu'ensuite, bien plus tard, avec Jérôme Prieur, nous entreprendrons ce grand travail sur la littérature chrétienne et sur la littérature musulmane. Mais aussi, d'un autre côté, c'est ce qui m'amènera à préfacer la réédition des chapitres sur le travail et le salaire dans le Capital, dans une nouvelle traduction. Donc au fond, tout ça, c'est le chemin que j'ai voulu suivre. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait faire ce film que Rossellini n'a pas pu faire en son temps ? La réponse est hélas non, non et non. Parce que, prenons l'exemple que nous avons sous la main, il y a une chaîne qui s'appelle Arte, qui est une chaîne franco-allemande. Je me régale d'avance, j'ai rendez-vous avec lui fin octobre, avec le directeur des programmes d'Arte. Je vais lui offrir le livre en lui disant « Mais nous sommes une chaîne franco-allemande, qu'attendons-nous pour tourner ça ?» Puisque réalisateur français, j'adorerais tourner avec des acteurs allemands en Allemagne, avec une équipe allemande et française, et ce qui serait à l'image même de ce que doit être Arte. La réponse est déjà « Ah oui, c'est une très très bonne idée, oui, oui, nous allons y réfléchir ». Je pense que je pourrais y réfléchir jusqu'au moment d'aller au Père-Lachaise sans mes propres moyens. Donc ça ne peut pas se faire. Et j'ai repensé à une chose qui m'était arrivée un peu de même nature quand Jean Vautrin a publié son roman qui s'appelait « Le cri du peuple ». Immédiatement, nous avons pensé qu'enfin nous pourrions faire un film sur la Commune. Et nous avons foncé tous les deux chez Hachette Première, qui était dirigée par René Klettmann, qui partageait notre vision de l'histoire. Et on a expliqué à René que nous écririons l'adaptation, Jean et moi, et que je ferais le film. nous nous quittons bons amis. Et 8 jours plus tard, René Kletman nous appelle pour dire que, désolé, mais la direction d'Hachette s'oppose à ce qu'il produise un film sur la Commune. Et c'est là que Jean a eu cette idée d'aller voir Tardy pour le faire en bande dessinée. Et ils en ont fait le triomphe de la bande dessinée des 10 dernières années. Eh bien, c'est le même type d'idée qui m'a fait penser que ce travail sur les guerres de paysans en Allemagne au XVIe siècle, puisque je pensais que la voie cinématographique ou télévisuelle était très improbable... Rien n'est impossible, mais disons très improbable, eh bien je devais passer par une autre voie, par un autre média tout aussi populaire qui permettait non seulement de dire, mais de faire voir. Et donc c'était de faire ce travail avec Éric Liberge. Éric Liberge est un dessinateur que j'aime beaucoup, avec qui nous avons déjà fait plusieurs livres, qui est un dessinateur très classique et extrêmement soigneux, et surtout qui est... incroyablement disponible. Parce que comment ça se passe quand on fait une bande dessinée? J'écris le scénario, il fait ce qu'on appelle des crayonnés, c'est-à-dire qu'il donne une idée de ce que sera le découpage des cadres. Nous en discutons et puis il se met à dessiner vraiment. Et une fois que j'ai eu les choses dessinées, une ou deux fois, peut-être même trois, je lui ai demandé de refaire parce que je trouvais que ce n'était pas ça, que... alors que c'est un travail extrêmement soigné. Pour faire la guerre des paysans, c'est 3 ans de travail. Et quand on voit les dessins, on voit que ce sont des dessins tout à fait exceptionnels. En plus, on a été un peu bridés à cause des problèmes de papier, puisque nous avons été bridés à 120 pages, alors que nous étions partis pour en faire 140 ou 150. Mais peut-être que les choses s'amélioreront, on ne sait jamais, ça peut arriver parfois. Et si elles s'améliorent, peut-être qu'on fera l'équivalent du cinéma, ce qu'on appelle director's cut, quand on montre le film tel que le réalisateur aurait voulu qu'il soit et les producteurs l'ont réduit. Eh bien, peut-être qu'on arrivera à publier ça dans les grandes largeurs. Mais c'est vrai aussi que la bande dessinée aujourd'hui a vraiment monté une marche sur le côté de l'intelligence, de la lecture critique de l'histoire, de l'intelligence des récits. Je crois que c'est vraiment important, et notamment chez Futuropolis, où ils ont cet axe de travail qui est très costaud et, je crois, très prometteur.
En tout cas, bon, c'est effectivement, ça part pour être un succès. Hein. Il y en a, là, juste avant de venir, il y en a qui achètent par 5 exemplaires. Donc, bon, j'espère qu'il y en aura beaucoup qui feront ça. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un livre qu'on peut offrir, qu'on peut diffuser.
Mais je crois aussi, sur un plan politique, tu disais tout à l'heure, je voulais rebondir sur ça, que ça nous interroge, mais ça nous interroge vraiment, parce que le mouvement des paysans au XVIe siècle est en réalité très comparable à ce que nous avons vu avec les Gilets jaunes. Or, on voit exactement, finalement, si on analyse ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait, la même critique et la même déception qu'on peut avoir, parce que Thomas Munzer était... un inspiré, un exalté, il n'était ni un stratège, ni un chef de guerre. Et quand Dominique citait la bataille finale où ils seront tous massacrés, ils sont là, une armée de paysans, mais armée de fourches, de bâtons, de pelles, etc., qui n'ont rien à voir. Ils ont en face d'eux l'armée du Prince Noir, qui est réellement une armée avec des soldats en armes et une cavalerie. Or, malchance ou miracle, Munzer voit, sans doute comme aujourd'hui, apparaître un arc-en-ciel dans le ciel. Et il dit à ses troupes, c'est le signe de l'alliance que Dieu fait avec nous, et il fait attaquer les paysans. Il charge. Il y aura 5000 morts. Et après, au-delà de ça, 5000 morts sur le champ de bataille, plus tous ceux qui seront poursuivis ensuite et découpés en rondelles, assassinés, etc. Il y en a beaucoup. Le problème de Munzer, justement, ça a été une sorte d'incapacité. Ce n'était pas du tout son terrain à organiser, à structurer ce mouvement pour qu'il devienne autre chose simplement qu'une révolte, qu'un incendie comme ça. Or, on voit que le mouvement des Gilets jaunes s'est aussi perdu pour ça, parce qu'au bout d'un moment, il n'y avait pas une capacité à faire que l'ensemble des énergies et des protestations qui s'exprimaient puissent agir politiquement dans la société. C'est devenu sporadique. Eh bien, là aussi, les paysans, ça a été exactement cette même ignorance de la nécessité de s'organiser face à des ennemis qui, eux, sont extrêmement organisés, extrêmement puissamment armés et tout à fait décidés à liquider toute forme d'opposition. On l'a vu, encore une fois, il y a eu moins de morts avec les Gilets jaunes qu'avec les paysans, mais il y a eu toutes ces mains coupées, ces yeux crevés et cette satisfaction béate de ceux qui gouvernent aujourd'hui. Bien, c'est deux situations qui sont extrêmement parallèles et je pense que le recul historique est toujours une très bonne façon de réfléchir de façon critique à la situation que nous vivons actuellement.
Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours face à nous le cléricalisme et le capitalisme. Hein, ça n'a pas changé. Versailles, la Commune, il y a toujours eu un antagonisme de classe. Vous savez qu'on dit maintenant, aujourd'hui, que la lutte de classe n'existe plus. Hein, il n'y a plus que le grand capital pour reconnaître, je ne sais plus quel est le patron qui a dit « Monsieur, la lutte de classe, elle existe, d'ailleurs, nous sommes en train de la gagner. »
C'est Warren Buffett. Non, il ne dit pas « Nous sommes en train de la gagner, nous l'avons gagnée.
Bon, ouais. Moi, je pense que je traduis parce que je ne suis pas défaitiste. C'est qu'une question de temps. Mais pour revenir à ce que je disais dans ma première intervention, effectivement, il faut profiter du passé pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Moi, j'ai un point de divergence là avec Gérard. C'est le fait de penser qu'il n'y a pas de direction au mouvement qui fera que ça sera de nouveau un échec. Et même si l'on peut effectivement faire le parallèle, mais j'ai remarqué.
J'ai pas parlé de direction. J'ai parlé d'organisation, ce qui est un petit peu différent.
Je préfère ça. Mais organisation. Mais on arrive quand même au même clivage qui caractérise les anarchistes et d'autres organisations politiques. Hein, effectivement, les anarchistes ne veulent pas d'une organisation directive. C'est là que je peux faire le. Et que. Je pense que c'est une. Ce qui nous manque, c'est la capacité de faire connaître nos positions. Et y compris dans les luttes comme celle des Gilets jaunes, on a passé dans l'extrême gauche et dans le mouvement anarchiste, il faut le reconnaître, la moitié des premiers mois à se dire « Ah, c'est pas un vrai mouvement populaire, c'est les fachos qu'il y a là-dedans. Il y a des ronds-points, on voit, mais oui, mais des fachos, il y en a partout. Hein, dans le département de l'Aisne, c'est 60%. Donc, quand on n'en trouve pas sur les ronds-points, ça aurait été étonnant quand même. Donc, moi, je pense qu'il faut effectivement lutter là où sont les gens, avec les gens tels qu'ils sont, et que le fascisme se développe, parce que nous, on n'a pas cette capacité, on refuse de l'avoir, je ne sais pas, on ne se donne pas les moyens de l'avoir, de lire le passé pour le traduire en possibilité où on va être enfin gagnant. Voilà. Et là, tant que 9 personnes sur 10 penseront que l'anarchie, c'est le bordel, etc., ça montre le décalage qu'il y a dans la population, que ce soit pour l'anarchisme ou d'autres courants de gauche. Arriver à faire croire à la population française que la gauche institutionnelle est de gauche, je veux dire, mais pour moi, c'est aussi aberrant que de faire croire à des gens qu'on va pouvoir leur vendre des tranches de paradis après leur mort. C'est-à-dire qu'on refuse de considérer le citoyen comme un être intelligent. Et peut-être qu'ils n'ont pas tort, hein, parce que pour être capable d'avaler de telles couleuvres, c'est quand même un drame. Donc là, on a du boulot militant à faire pour que, un, les organisations dites de gauche arrêtent d'être de droite. Si elles sont de droite, elles n'ont qu'à dire qu'elles sont de droite. Je citerai par exemple le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste est un parti de gauche, dit-on. Ben moi, je regrette. Un Parti Socialiste qui est pour l'économie de marché, c'est le nouveau nom du capitalisme. Alors, un Parti Socialiste qui est pour le capitalisme, en tout cas, qui est plus contre le capitalisme, ça veut dire qu'il est plus anticapitaliste. Ben, s'il est plus anticapitaliste, il ne peut pas être de gauche. Voilà. Donc, c'est des réflexions comme ça qu'il faut qui changent de nom.
Mais enfin, je pense que sur ce terrain-là, alors tu dois absolument saluer François Hollande. Il est quand même celui qui a éradiqué le Parti Socialiste.
Ah oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai, de la même façon que Mitterrand a éradiqué le Parti Communiste.
Voilà.
Voilà, on est bien d'accord. Et il suffit de leur faire un... Voilà, tu les mets dans des situations d'exercer le pouvoir alors qu'ils ne peuvent pas le faire. Et puis tu transformes un courant politique. Mais là aussi, c'est une question... moi, je pense que les anarchistes, ils sont plus à même de la régler. Parce que nous, on ne considère pas qu'on va mandater des gens et leur donner carte blanche. Hein, on vote pas, on donne pas des chèques en blanc à des élus qui vont se dire de telle étiquette et dès qu'ils seront élus, qu'ils pourront faire, parce que la Constitution le garantit, qu'ils pourront faire le contraire de ce qu'ils ont promis. Hein, je vous rappelle que le mandat impératif est interdit par la Constitution.
Oui. Hein,
donc tu peux pas, si toi tu passes un marché avec quelqu'un et qu'une des deux parties ne respecte pas le contrat, tu vas rester en justice, tu vas faire valoir tes droits. Quelqu'un qui se présente comme communiste, comme socialiste ou d'autres organisations, le lendemain qu'il est élu, c'est lui qui a été élu. C'est pas le programme. Et là, les anarchistes sont clairs. Nous, quand on mandate quelqu'un, c'est sur un programme, sur des choses à réaliser. Le mandaté n'a pas de pouvoir, sinon celui de représenter les gens et de faire ce qu'on lui a dit de faire.
Oui, enfin, c'est toute la question du système actuel et notamment du système électoral. Et c'est pour ça que de façon très informelle, avec plusieurs, nous avions tenté avant la dernière élection présidentielle de lancer un mouvement de boycott général. On s'est fait envoyer promener de tous les côtés, que ce soit les Verts, les Insoumis, les communistes et ça. Personne ne voulait ça et tout le monde préférait jouer ce jeu absurde où l'on se présente à une compétition, puisque l'élection présidentielle est une compétition, avec une seule certitude, celle de perdre. Ce qui me paraissait un drôle de combat, c'est-à-dire que c'est comme si on vous propose de faire un match de boxe contre Mike Tyson. Oui, vous pouvez toujours accepter, mais si vous n'êtes pas KO déjà dans les vestiaires, vous le serez à la première minute, le premier coup que vous prendrez. Donc il faut remettre en cause absolument ce système-là. Et c'est vrai que le mandat impératif serait une chose, alors que moi, je soutiendrais à 100%. De même qu'une autre revendication qui a totalement disparu du côté des partis de gauche, qui est le vote des étrangers non communautaires aux élections municipales. Je veux dire, on ne peut pas en même temps dire aux gens « il faut s'intégrer, vous devez vous intégrer », etc., alors qu'ils vivent ici comme nous vivons et participent aux vies de la commune et les empêcher de prendre des responsabilités. Mais toutes ces choses-là, c'est ça la difficulté. Enfin, tu avais raison de le souligner. Il y a face à nous des armées très puissantes et qui construisent des forteresses extrêmement puissantes. Il y a évidemment l'immense forteresse du capitalisme qui est difficile à attaquer. C'est pour ça que je ne crois pas beaucoup à tous les slogans « il faut se débarrasser du capitalisme »,« il faut détruire le capitalisme » et tout ça. Je trouve que ça peut faire plaisir de le dire, mais je ne vois pas très bien comment soudain, d'un claquement de doigts, ou quelle insurrection ferait que ça disparaîtrait. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire, et c'est vrai que au moins, du côté des anarchistes, j'admire ça. C'est-à-dire que se mettre au boulot, parfois juste devant chez soi, et que c'est comme ça peut-être que les choses arriveront à bouger, parce que l'autre mur qui est face à nous, c'est quand même le mur de l'ignorance, le mur de l'indifférence. Et ça, c'est aussi un mur aussi élevé pour moi que celui du capitalisme. Parce qu'en face, il y a une propagande quotidienne énorme, puissante et finalement très efficace qui finit par convaincre les uns et les autres que leur situation, eh bien, elle est normale. C'est normal qu'il y ait des pauvres et c'est normal qu'il y ait des très riches. C'est la nature qui veut ça. Bon, ben ça, pour combattre ça, c'est très, très compliqué. Et c'est pour ça que moi, je crois, autant je crois à l'action, comme tu l'as décrite, immédiate, presse des choses, mais je crois que si nous voulons, sinon transformer, en tout cas améliorer le monde où nous sommes, il y a la nécessité d'organisation entre les différentes organisations, d'arriver à des fédérations, etc. Sarah Van Uxen, qui est une spécialiste de la propriété, notamment des relations, enfin de comment donner une propriété à des endroits qui ne sont pas des personnes, comment donner une propriété à un champ, à une rivière, à une mer, etc. Elle explique tout ça, et à un moment, elle a cette formule que je t'adresse, où elle dit, au fond, il faudrait que ça soit une sorte de fédération anarchiste. Et donc, oui, mais il y a fédération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement l'activité d'individus isolés. Et ensuite, dernier point qui me paraît aussi important, c'est que je crois qu'il y a une dimension qui a totalement disparu du discours politique, mais qui est très présent chez les anarchistes, qui est la question morale. Et que la vertu ne se décrétant pas, c'est très compliqué, parce que pour arriver à faire des choses sans chercher son intérêt immédiat, cela suppose de la vertu. Et que c'est toujours aussi un des éléments sur lequel ont buté tous ceux qui ont tenté justement de s'organiser pour transformer le monde, c'est que face à cette énergie, eh bien, il y a souvent ce que je dénonçais, c'est-à-dire l'indifférence. Là, je viens d'acheter une vieille brochure, parce que j'ai trouvé ça formidable, de Pierre Kropotkin, La morale anarchiste. Mais c'est vrai que c'est exactement ça, parce que lorsqu'on discute de l'idée des communs, de mettre en commun un certain nombre de choses, de les gérer entre nous, etc., se pose tout de suite la question de la morale. Et mon frère aîné, qui a travaillé dans une entreprise qui était autogérée, il m'a dit que c'était un point essentiel, parce qu'il fallait avoir non seulement la conviction, mais aussi la rigueur pour arriver à faire vivre la chose sans ne léser personne et sans déborder sur ça. Tout ça est, au fond, déjà en germe dans l'histoire de Munzer.
Non, moi, ce que je propose, c'est quand même de donner la parole au public, puisqu'on annonce des rencontres, débats. Donc, question de morale et d'éthique, la parole est dans la salle, il y a un micro, voilà. Et...
Bonjour. Non, juste pour dire que moi, j'avais lu le livre d'Éric Vuillard, je pense à Palau ici, La guerre des paysans, je pense. Et moi, c'est comme ça que moi, j'ai... connu Thomas Munzer. Enfin, je ne sais pas si c'est un peu la même histoire.
Oui,
ou
oui,
s'il y a
c'est
des
la
différences.
Même histoire. Non, c'est ce qui a fait Éric Vuillard est un bel exploit littéraire, je dirais, puisque en 120-130 pages, il fait un condensé très fort de toute cette problématique, et surtout, il y apporte quelque chose qui est la perspective historique, puisqu'il commence par les révoltes paysannes qui ont lieu en Angleterre avant Munzer. Il n'y aura pas de contact entre eux, mais qui, au fond, traduisent un même élan. Et on verra, après Munzer, quand Henri VIII décidera de rompre avec Rome, se passera exactement la même chose. Les paysans et les plus pauvres et les journaliers se mettront à piller les couvents et les monastères, parce que le poids, je dirais, de l'Église était tel et était vraiment une façon terrifiante de contrôler les individus. Donc il y a un continuum entre ça. Et si vous lisez Ernst Bloch, si vous lisez Engels, si vous lisez Éric Vuillard et si vous lisez ce que j'ai écrit, au fond, là, entre ces quatre-là, je pense qu'on peut avoir une vision assez nette de ce qu'était la situation allemande au XVIe siècle. Mais cette situation est très importante parce que, après Luther, l'Allemagne ne va pas bouger jusqu'à Bismarck, c'est-à-dire trois siècles. Ils ne vont pas bouger. Et c'est quelque chose d'assez stupéfiant, quoi. Mais tout ça, au départ, il y a bien sûr, et c'est ça aussi qui est intéressant, la question économique, parce que c'est ahurissant de penser que c'est une telle transformation a commencé parce que Léon X n'avait plus assez d'argent pour donner à Raphaël les moyens de terminer Saint-Pierre de Rome.
La continuité de ce qui a été dit, effectivement... Il y a un enjeu extrême sur l'histoire, la connaissance de notre histoire, et pas celle qu'on apprend dans les écoles, ni celle qu'on apprend à la télé ou ailleurs, enfin qu'on nous apprend, qu'on nous inculque, et qui est souvent d'ailleurs en rejet, finalement, en aboutit à une ignorance ou à des croyances. Et dans ce lieu-là des choses qu'il y a à connaître, il y a effectivement les luttes paysannes. Il ne faut pas oublier que nos sociétés ont été pendant très longtemps paysannes. Et il y a eu énormément de luttes. D'ailleurs, on a reçu sur Radio Libertaire récemment Annick Stevens, qui est à l'origine de l'Université populaire de Marseille. Et un des cycles qui a été fait, c'est sur les luttes paysannes. Et d'ailleurs, un cycle extrêmement intéressant. Et un peu plus proche de nous, il ne faut pas oublier que les luttes macnovisme à l'époque de la Révolution russe, c'était des paysans pauvres qui ont lutté. Pour cet aspect de transmission de l'histoire, effectivement, la BD... alors, je ne sais pas, je ne connais pas assez le monde de la BD, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de BD où il y a un arrière-plan historique extrêmement sérieux, des gens qui ont beaucoup travaillé. Alors, il y en a eu sur la commune, il y en a eu sur les luttes paysannes. Et ça peut être quelque chose d'intéressant. Le copain de ma fille s'intéresse à la BD, et justement, il s'intéresse bien à ce type de BD. Et voilà. Un dernier élément, quand on parle des luttes paysannes, effectivement, il y a tout un aspect historique, mais un aspect actuel. On a vu le week-end dernier, on a rencontré une représentante de Via Campesina, qui est un mouvement international de petits, moyens paysans qui luttent. Tous les jours, il y a des paysans qui sont massacrés par la répression. Tous les jours, en Inde, enfin dans le monde entier, il y a des paysans qui continuent à lutter pour un monde vivant, humain. Et aussi, je terminerai là-dessus, on a l'impression que toute notre alimentaire, etc., est créé par l'agro-business et tout ça. OK, n'empêche que plus de la moitié de la nourriture qu'on mange dans le monde est encore faite par des petits paysans, avec des rendements nettement supérieurs, d'ailleurs, qu'à les grosses machines. Donc tout ça pour dire que c'est à la fois du passé et de l'actualité. Et c'est pour ça, ce genre d'initiative, moi, me paraît intéressant. Peut-être que tu pourrais venir en parler à Radio Libertaire. On verra. Voilà, j'ai terminé.
C'est un vaste réseau.
Tiens, là-bas, il y a une question au fond.
C'est pas une question, c'est peut-être une réflexion à partir de ce que tu disais, Gérard, tout à l'heure sur la question de la morale. Personnellement, j'y crois très peu. Par contre, je pense que ce qui est la force de l'anarchisme, parce que la morale, à mon avis, les gens qui s'en revendiquent mentent toujours sur leur pratique. Et je ne crois absolument pas qu'on puisse être vertueux. Et d'ailleurs, un monde de gens vertueux me ferait plutôt peur. Mais par contre, je pense... C'est pour ça que je suis en désaccord total avec Kropotkine là-dessus, enfin pour ma part, sur la question de la morale anarchiste. Mais ce que je crois, par contre, qui est très fort dans l'anarchisme, c'est d'avoir... inventer des dispositifs, ce qui n'est pas la même chose, des dispositifs qui empêchent. Voilà. Des dispositifs qui obligent au renouvellement des mandats, des dispositifs qui empêchent la capitalisation politique ou capitalisation symbolique, Et ça, c'est très fort. Et à mon avis, il faut qu'on le mette en place partout. Parce que moi, j'ai vu, et on en parlait avec des amis, j'ai vu des gens entrer à l'Assemblée nationale, des amis, des proches, des gens qui luttaient, qui ont lutté, mais qui ont lutté vraiment, autant que nous. Bon, en 6 mois, 8 mois, 1 an, qu'étaient ces amis devenus des députés, c'est-à-dire des gens qui n'avaient plus rien à voir, en réalité, avec les résistants qu'ils étaient. Donc, la morale, qui est tout le temps une chape de plomb, par ailleurs, moi, je préfère des dispositifs. Des dispositifs où le pouvoir du dispositif arrête le pouvoir monopolisé par quelques-unes ou quelques-uns. Malheureusement, il faut bien le dire, surtout quelques-uns.
Juste pour bien me faire comprendre, quand j'ai parlé de morale, j'ai parlé aussi de vertu. Pour moi, le bon exemple, c'est Salvador Allende. Salvador Allende et ses camarades lui reprocheront après sa mort à jouer jusqu'au bout le jeu démocratique et à refuser d'armer le peuple parce qu'il pensait qu'il fallait se tenir à ce qu'il avait déterminé comme conduite politique dans la relation qu'il pouvait avoir même avec ses adversaires. Ça, c'est de la vertu. Je crois que c'est pas donné à tout le monde. Et d'ailleurs, devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. On voit bien que la liberté, tout le monde, évidemment, s'en réclame et la réclame pour lui-même. Et puis, la fraternité, on dirait aujourd'hui la solidarité, c'est ce qui devrait être le mode de relation ordinaire entre les personnes. Et donc, on a mis l'égalité au centre, parce que l'égalité est justement chargée, et c'est souvent et ça devrait être le rôle de l'État, d'assurer cet équilibre très difficile à trouver entre la liberté à laquelle chacun aspire et qui, poussé à son excès, amène à l'oppression. Le capitalisme en est un très bon exemple. Les capitalistes réclament toujours plus de liberté et parlent toujours de liberté, mais c'est l'oppression qui en vient. Et puis, la fraternité ou la solidarité, ça ne se décrète pas. C'est pour ça que je parlais de vertu. Ça suppose une conscience sociale, une conscience intellectuelle, une conscience politique qui malheureusement n'apparaît plus vraiment dans ce que l'on peut entendre du monde. Et donc il y a l'égalité au milieu, que ce soit le rôle de l'État ou d'une autre organisation, pour tenter de maintenir un équilibre entre ces deux points. Et c'est pour ça que j'insistais sur ça, parce que je sais bien que c'est toujours très difficile, dans quelque organisation que ce soit, que chacun y soit engagé avec le même allant, la même intégrité et la même détermination. Il faut vivre avec ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais c'est délicat.
Merci. Donc Christian Groupe, Gaston Couté, Fédération anarchiste. Mes camarades vont encore râler parce que j'ai dû le dire à peu près 250 fois. Je n'adhère pas à une idéologie, mais bien à un fonctionnement. Je suis extrêmement réservé sur la notion de morale. Je suis parfaitement amoral, vous m'excusez. En revanche, je suis convaincu que, un peu comme on disait tout à l'heure à propos de Bakounine, que la liberté des autres est la condition de ma propre liberté. Le mot « intérêt » a été sali gravement par le capitalisme. Et pourtant, ce n'est pas un mot aussi moche que ça. Quand je dis que j'ai intérêt à la liberté de mes camarades pour me sentir libre moi-même, nous sommes au cœur de l'anarchisme.
C'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme que vous citez.
Je ne vois pas de morale là-dedans. Je vois simplement une affirmation. Et ça me fait penser au livre qu'avait écrit Généreux qui s'appelle qui s'appelait La Dissociété, et qui disait, à force de nous dire que nous n'avons pas besoin des autres, on finira par le croire. Et il prend un exemple tout simple, il prend un exemple il prend la langue. Et il dit, mais au fond, je prends mon exemple, je parle français, je n'ai pas inventé le français. Les mots que j'emploie, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Nous sommes la preuve constante, y compris dans ce débat, à chaque instant, que nous n'existons jamais sans les autres. Que si on veut faire la part de ce que je suis, on ne pourra pas s'arrêter à mon enveloppe. C'est le fondement de mon anarchisme. J'ai intérêt à la liberté des autres. C'est les autres qui, en parlant avec moi, me font tout simplement penser. Un être qui ne pense pas, qui ne parle pas, il ne pense pas. C'est aussi simple que ça. Mais on nous dit à longueur de journée l'inverse, par intérêt pur et simple. Je ne vois pas de morale là-dedans. Il n'y a pas de morale.
Mais ne confondez pas ce que je dis avec la morale.
Je ne vous mets pas en cause.
Quand vous dites que vous êtes amoral, alors dites-nous que vous sodomisez les petits garçons. Je comprends pas ce que ça veut dire.
Je vois pas le rapport avec la morale.
Mais non, mais c'est parce que ce terme moral que vous l'utilisez à contresens au regard de ce que j'ai dit. C'est pour ça que vous interpelle.
Je ne me permettrai pas de m'approprier la façon dont vous remplissez ce mot-là. Je veux juste dire que, pour ma part, je n'ai pas besoin de ce mot-là. Mais je ne vous mets pas en cause. Je suis anarchiste. Ça veut dire que votre propos m'intéresse et même m'enrichit. Je le dis et autrement. Et clairement, hein, le capitalisme passe son temps à nous dire que nous n'avons intérêt que aux dépens des autres. Moi, je pense que c'est profondément, et la langue en est le meilleur exemple, est profondément faux. Encore une fois, j'adhère à un fonctionnement. On parlait de un mandat impératif. On peut citer tous nos fonctionnements. Moi, j'adore. Et j'ai pas envie de fonctionner autrement. Maintenant, bon, chacun fait et croit ce qu'il veut. Je n'aime pas beaucoup la notion de transcendance. Mais peut-être que je suis complètement à côté de la plaque par rapport à ce que vous avez dit. J'ai simplement envie de dire ça.
Oui, bonjour Geneviève. J'ai envie de croire effectivement que nous sommes des êtres moraux. À partir du moment où on se bat pour quelque chose qui a du sens pour nous et les autres, on va être engagé dans et certes un fonctionnement et un processus, évidemment, ça c'est, j'ai envie de dire l'instrument, mais au fond quand même, je connais des gens qui n'ont absolument pas besoin dans leur propre vie, étant donné qu'ils ont une vie qui pourrait être très tranquille, bien installée, profiter au maximum. Ils ont presque intérêt à se foutre complètement des autres. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que c'est fondamental, c'est trop important pour eux de vivre avec les autres et que les autres aient cette fameuse égalité à laquelle vraiment je crois. Alors moi, j'ai une question. Ça, c'était juste une petite introduction, mais j'ai une question. Mon frère vit aux États-Unis depuis très longtemps. Pour lui, le mot « liberté », il a changé de sens. C'est-à-dire que maintenant, c'est les libertariens, Non, mais c'est important de voir que si on n'est pas sur les mots justes, on va avoir une dérive aussi de la pensée. Il faut qu'on définisse. C'est pour ça que peut-être on ne pense pas la même chose en termes de morale, parce qu'on ne l'a pas bien définie. Et là, c'est pareil, peut-être, au niveau de la liberté. Moi, je voudrais savoir comment on peut parler au peuple aujourd'hui avec ce qu'il subit de perte de liberté, comment on peut lui parler de liberté et qu'il en comprenne vraiment le sens au sens anarchiste du terme. Parce que liberté, on n'a même plus la liberté de manifester si on se fait éborgner. Je ne sais pas si des jeunes aujourd'hui risquent de finir dans un fleuve, la Loire, pour avoir manifesté, ou même pour avoir été seulement à un concert de rock, bon, il n'y a plus de liberté. Donc comment on va le définir véritablement sans que ça ressemble à une liberté? Tout le monde s'en revendique aujourd'hui, et même les plus à droite, voire l'extrême droite.
Vas-y, réponds.
Par rapport à ce que j'ai entendu sur le début de ton intervention, hein, la morale et puis les mots, en gros. Hein, pour moi, c'est la même chose. Le problème, c'est que la morale, dans notre monde capitaliste, c'est toujours la morale des autres. Hein, ça, c'est Léo Ferré, je crois, qui a sorti ça en slogan. Pour les mots, c'est pareil. On pense avec les mots qu'on nous donne. C'est pas pour rien que les gens d'en face, nos adversaires, nos ennemis, même, on pourrait dire, ils changent la nature des mots. Avant, vous aviez quoi? Vous aviez un chef, hein, et puis tu avais le prolo. Toi, tu avais le patron, le prolo. Hein, c'était pas difficile pour le prolo de voir que son intérêt, ce n'était pas le même que celui du patron. Aujourd'hui, on change les mots. Hein, c'est-à-dire que le patron, c'est une direction des ressources humaines. Hein, et puis le prolo, c'est un collaborateur. Et puis bien sûr, il faut entendre qu'on est sur le même bateau. Hein, il faut mieux ramer tous dans le même sens. Voilà, on nous trompe comme ça. Toi, et pour rebondir sur la fin de ton intervention... Et c'est là qu'il faut montrer qu'on est plus nombreux qu'eux. Hein? Les patrons ont besoin des ouvriers, des producteurs. Les producteurs, ils n'ont pas besoin des patrons. Il faut déjà que ces choses-là soient claires pour nous. Hein? Et puis, il faut aussi qu'on se donne... Et c'est là que je rejoins en partie Gérard sur ce qu'on pourrait essayer d'inventer à partir des leçons que nous ont données l'histoire. C'est qu'il faut qu'on se dote d'outils. Hein? Et aujourd'hui, moi, j'y vois plusieurs choses. Il ne sera pas possible d'avancer si on ne crée pas un rapport de force. Pour moi, il faut créer le rapport de force. Il faut y travailler, etc. Ensuite, on ne pourra pas créer ce rapport de force si on ne pousse pas les gens à faire valoir leur intelligence. Parce que, c'est grâce à l'éducation populaire... qu'on se réunit, qu'on confronte nos idées, et moi je ne désespère pas de l'intelligence humaine. Et puis il y a un troisième volet, alors moi rapport de force, éducation populaire, et puis bon, il y a certainement le troisième volet, ça, je ne sais pas comment le définir, mais s'il n'y a pas ces trois volets en même temps, on n'arrivera à rien, en se ferant encore massacrer. Et aujourd'hui, on nous massacre d'une manière un petit peu plus délicate, plus perfide, mais au moins aussi efficace. On ne va plus assassiner sur une colline 5000 personnes d'un seul coup, comme dans la guerre des paysans en Allemagne. Mais on va faire peur, on va éborgner les gens. Hein, les introductions des armes, on leur dit, des nouvelles armes, c'était de dire viser la tête. Parce qu'une gueule défigurée, une gueule cassée, ça choque, mais c'est pas létal. Il n'y a pas de mort. Hein. Et ça, on leur apprend à le faire. Il ne faut pas se leurrer. Ils ne sont pas plus sentimentaux, respectueux de la vie humaine. S'ils peuvent nous massacrer, ils nous massacreront. De la même façon que si on ne se bat pas au niveau syndical, les gosses à 8 ans, ils retourneront dans les mines. Il n'y a pas de morale chez les capitalistes. Leur moteur, c'est le profit. Et puis s'il doit y avoir des morts pour qu'ils profitent, dégâts collatéraux.
Et sur les armes, je fais juste une sorte de note de bas de page. J'avais tourné un film que je n'ai pas pu terminer en 80 sur le discours stratégique. Et avec Andrew Orr, avec qui je faisais le film, nous avions filmé l'ingénieur américain qui avait mis au point les bombes à billes en plastique. Parce que jusqu'alors, les bombes à billes, c'était des billes métalliques, qui étaient une arme redoutable. Mais cet ingénieur a mis en évidence une chose, que les bombes à billes en plastique étaient beaucoup plus efficaces. Parce que ça ne tuait pas tout le monde, mais ça blessait tout le monde. Et que, c'est pour ça ce que disait Dominique, et le fait d'avoir autour de soi des gens éborgnés, avec les têtes déformées, avec ce que provoquaient les blessures terribles que provoquaient les bombes à billes, c'était bien plus efficace, d'autant que les bombes à billes étaient beaucoup plus légères que les bombes à billes métalliques, et donc on pouvait en mettre beaucoup plus dans une seule ogive. Donc voilà, c'est vrai que ce travail-là, ça existe depuis longtemps. Et juste un mot sur la question de la liberté, je suis entièrement d'accord avec ça. Et pardon de me citer, mais dans un de mes livres, dans Les vivants et les morts, il y avait un des personnages qui justement traitait l'autre d'esclave, et d'abord l'autre était très fâché, puis au bout d'un certain temps, il finissait par dire lui-même, mais oui, pourquoi je travaille tout simplement pour arriver à survivre du jour au lendemain? Est-ce que j'ai la liberté de me déplacer? Non, parce que je n'ai aucun moyen de me déplacer. Est-ce que j'ai la liberté d'expression? Absolument pas, parce que si j'écris dans le journal local ce que je pense de ce qui se passe dans le truc, c'est comme si je signais moi-même ma lettre de licenciement. Je suis au fond assigné à résidence et condamné à travailler aux conditions que l'on m'impose. Et c'est vrai que, de façon globale, c'est ça la question qui se pose sur la liberté aujourd'hui. Qu'en réalité, c'est une liberté formelle, mais quelle liberté a-t-on d'exercer des droits quand on n'a pas de droits? Voilà tout le problème. Donc c'est vrai que Dominique a raison d'insister sur l'intelligence populaire, parce que moi aussi je crois que c'est la force la plus grande, et on voit bien comment elle est combattue de la façon la plus radicale qu'il soit. Je repense à l'IP, mais je repense aussi au Larzac, mais je repense aussi au référendum qui nous avait été proposé en 2005, et où moi j'ai fait beaucoup de débats, où j'étais stupéfait de voir l'intelligence de ceux qui avaient lu ce texte si mal écrit, qui en avaient fait un travail critique, et qui, le mieux de tous, c'est, on avait fait un débat qui n'en finissait plus, et il y avait là un jeune homme qui voulait absolument prendre la parole, du genre un peu mal dans sa peau, un peu comme ça, avec un attaché-caisse. Bon, à bout de souffle, on lui dit, bon, alors à vous, maintenant, on va terminer là-dessus. Le type avait fait un truc auquel on aurait dû tous penser. Il avait pris le texte de la proposition écrite par Giscard d'Estaing et le programme du Parti socialiste pour les précédentes européennes. Et il avait fait une lecture synoptique. Il avait mis en face les différentes choses. Évidemment, c'était meurtrier. Mais c'était formidable, quoi. Et donc, cette intelligence-là, on l'a vu aussi quand nous nous sommes mobilisés, plusieurs cinéastes, pour les travailleurs sans papier. Il y a toujours le même a priori, et l'a priori de tous les gouvernements, c'est que la population est stupide, illettrée, juste bonne à faire les mots fléchés du Parisien ou des journaux gratuits et à écouter BFM. Mais c'est pas vrai du tout. Moi, j'étais le parrain de Madeleine Cissé, qui était l'une des deux porte-paroles. Elle était prof d'anglais et d'allemand. Sa fille faisait des études supérieures. Elle avait été devenue sans papier à cause de la modification des lois Pasqua. Au Larzac, c'est la même chose. Quand ça a commencé, le Larzac, le gouvernement pensait qu'au Larzac, c'était des bergers fous et des goitreux des montagnes. Mais pas du tout. Guy Tarlier, qui a été au départ vraiment un peu celui qui a levé tout le monde, était un ancien colonel et un homme qui avait, pour le coup, le sens de l'organisation. Et ils ont eu une ouverture d'esprit extraordinaire. Pareil, l'IP, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est là-dessus que nous devons œuvrer, nous devons nous battre. Je vois Willy Pelletier là-bas. Nous avons constitué à plusieurs un mouvement qui s'appelle Coude à coude pour justement se servir des moyens qui sont les nôtres, eh bien, battons-nous avec l'intelligence, la culture, faisons-en des outils ou peut-être des armes pour justement combattre cette indifférence et combattre cette ignorance qui est promue tous les jours sur toutes les chaînes, dans toutes les radios et sur tous les journaux papier.
Oui, je veux juste un petit ajout, parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'un triptyque d'organisation et j'en ai cité que deux. Il en manquait effectivement le troisième. Alors je pense qu'il y a peut-être des personnes qui voulaient savoir à quoi je pense pour le troisième. Ben, c'est simplement les alternatives en acte. C'est-à-dire que bon, d'un côté, l'éducation populaire, la création du rapport de force, mais aussi la création d'alternatives pour montrer qu'il est possible de faire autrement.
Alors, c'est la grande question, ouais, des communs que tu viens d'arriver à mettre justement. Alors, les communs, c'est une chose qui existe depuis très longtemps, qui a été très puissante, qui a été en Angleterre entièrement détruite au moment de ce qu'on appelle les enclosures, quand la noblesse et l'aristocratie a décidé de fermer les champs, fermer les forêts, etc., et que plus personne ne pouvait faire paître dans les champs communaux et ramasser du bois, etc. Et puis remonter pendant la Révolution française, et puis c'est redevenu une grande question quand Eleanor Ostrom a eu le soi-disant prix Nobel d'économie sur justement cette défense des communs, c'est-à-dire de comment, si vous voulez, il y a d'un côté ce qui est de la propriété étatique, c'est une chose. De l'autre côté, il y a la propriété privée. Puis il y a des tas de choses qui sont au milieu, qui ne sont ni de la propriété privée, ni de la propriété étatique. La sécurité sociale, par exemple. Eh bien, ces choses-là peuvent être et devraient être gérées en commun. Et c'est tout à fait possible. Alors là aussi, il faut des règles, il faut une organisation, c'est très structuré, ça doit être très structuré, mais ça peut fonctionner. Et par exemple, les pêcheries à Marseille fonctionnent encore sur ce modèle-là. Donc ça fait, à mon avis, partie des éléments d'action au quotidien. Alors la grande difficulté, c'est qu'on voit comment ça peut très bien marcher et comment ça marche à un niveau local, comment ça devient évidemment plus difficile à un niveau national et comment au niveau international, eh bien là, ça se heurte alors de plein fouet au capitalisme qui jamais ne cédera quoi que ce soit, ni sur l'espace, ni sur la terre, ni sur l'eau, sur la liste des traités de protection de la nature en général qui ont été signés est énorme. La caractéristique, c'est qu'ils ont été unanimement suivis d'aucun effet. Donc on voit bien qu'il y a des problèmes et donc c'est des futurs batailles que nous devons mener. Encore des questions ?
Bon, on aimerait savoir combien de temps il nous reste. Donc une dernière question, sinon nous on va en rajouter. Hein.
Bonjour, c'est quoi le mouvement Coude à Coude?
Une page de pub pour Coude à Coude.
Une page de pain. Donne Willy.
Non, Coude à Coude, c'est une association qu'on a lancée hier, donc y compris, il faut nous excuser de ne pas avoir été plus là ce week-end, on aurait bien voulu, qui vise à montrer l'ensemble des résistances qui existent dans ce pays, que ce soit des résistances minuscules ou des résistances majuscules, pour qu'elles gagnent les unes et les autres en force, d'une part, d'autre part, à renouveler l'éducation populaire, mais à la façon des bourses du travail originelles, fondées par Ferdinand Pelloutier, c'est-à-dire en pensant que chacun et chacune sait, que ne sait pas simplement, je ne sais pas, tel universitaire, tel qui va nous faire son show, mais que doivent se mêler les savoirs sus d'expérience par ceux qui vivent des situations et les savoirs sus par métier. Par métier, alors, soit de recherche ou soit artistique, d'une part. Et puis enfin, le troisième objet, mais j'espère qu'on pourra se retrouver très nombreux, y compris en faisant avec le loup noir, l'étoile noire, etc., des choses en commun, hein. Parce qu'on travaille sur des ciné-clubs, sur des théâtres-clubs, sur des... etc. Bon, c'est de créer une mémoire, j'allais dire des luttes, mais aussi des invisibilisés. Chaque militant qui aujourd'hui meurt, ce sont des vies de lutte qui s'en vont en fumée et, ou dans des greniers obscurs. Or, que ces vies, Michel Foucault parlait de vies destinées à rester sans trace, alors que la trace de la reine d'Angleterre, on n'en a pas besoin, et que tellement de vies destinées à rester sans trace sont formidables. Donc, on voudrait bien travailler à la conjuration des gens formidables.
Alors, pour terminer, Gérard, tu veux peut-être dire aussi quelque chose sur Coup d'à Coup. Je crois que tu as dit que tu en faisais partie.
Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, je suis entièrement sur cette idée-là, et notamment sur l'idée, finalement, de la culture populaire, qui me paraît essentielle. Ça me paraît... Ce travail est à faire, quoi. Parce que la propagande néolibérale et la propagande gouvernementale est si puissante et si constante qu'il faut justement... encourager et de façon commune à réfléchir et à partager nos savoirs. Je crois que c'est ça qui est très important. Je veux dire, les choses, si nous ne partageons pas les savoirs, nous ne partagerons pas les luttes, parce que simplement, il y aura une incompréhension où s'apparaîtra soudain la création d'une autre classe, entre guillemets, savante, qui serait chargée de mener les grandes transformations. Ce n'est pas du tout ça que nous voulons, et je pense que coude à coude, son mot le dit bien, c'est l'idée du partage. Là aussi, j'y reviens sur l'idée des communs, les communs du savoir, ça existe aussi. Et c'est quelque chose que nous voulons pousser le plus que nous pourrons, parce que d'arriver à monter des opérations, des actions communes aussi, de ne pas être dans simplement l'idée de mettre en évidence la puissance ou l'impuissance de tel ou tel groupe, mais au contraire, de faire masse.
Bien, eh bien, si vous avez terminé, on va se quitter provisoirement avec On lâche rien, HK et les Saltimbanques. On se retrouve dans un quart d'heure pour la conférence suivante. À tout de suite.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeur ouvrier, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien,
on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.